aller plus vite. Vous allez garder le mien qui marche pas, et moi je vais prendre le vôtre. Hein.
Ça fait deux fois que vous faites ça.
Oui.
Vous m'avez déjà pris mes chaussures, maintenant mon vélo.
Guidon réglable, en hauteur.
Les lettres affranchies à 2 centimes seront acheminées à Vélocipède.
Le nez dans le guidon, sur Radio B.
Quand on partait sur les chemins, à bicyclette.
Bonjour à toutes et tous. Heureux de vous retrouver au départ de la 35e étape du Nez dans le guidon, votre rubrique consacrée au cyclisme. Comme annoncé le mois dernier, on se retrouve aujourd'hui 2 décembre, non pas pour fêter la victoire d'Austerlitz, mais pour accueillir un historien du cyclisme. En 2019, il publiait un magnifique récit sur les Tours de France des années 1920, le Tour au temps des Forçats et des Ténébreux. Il revient en 2022 avec un nouvel ouvrage, Le Duc Manspecher la Pibi, les grandes heures de l'équipe de France dans les Tours de France des années 1930. Jean-François Suppier est notre invité ce matin. Bonjour Jean-François.
Bonjour, bonjour Alain.
On s'était quitté lors de la présentation de ton précédent ouvrage sur un bilan mitigé de nos compatriotes dans le Tour de France, avec durant les années 1920 une seule victoire française, Henri Pélissier en 1923. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir la décennie suivante qui voit les Français briller. L'année 1930 marque-t-elle une nouvelle époque ?
Oui, incontestablement, c'est un tournant majeur dans l'histoire du Tour de France pour plusieurs raisons. Tu l'as dit, c'était déjà le retour un petit peu aux affaires des coureurs français qui, après de nombreuses années compliquées, découvrent une génération dorée emmenée par André Leduc. Voilà, il y a également Antoine Amagne, Georges Pécher, Roger Lapébi, on en parlera un petit peu plus tard. Et c'est également, surtout 1930, l'introduction par la direction du Tour des équipes de France, des équipes nationales, hein, donc notamment de l'équipe de France. Bon, comme je le rappelle un peu dans le livre, à une époque où le concept équipe de France est un petit peu différent, même tout à fait différent de celui qu'on peut entendre aujourd'hui. C'est vrai qu'actuellement, quand on parle équipe de France, bon, on est actuellement dans la Coupe du Monde de foot, on pense peut-être en priorité à l'équipe de France de foot, de rugby, hein, voilà, de basket, enfin les grands sports collectifs. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, il faut rappeler que les sports co sont encore un petit peu balbutiants avec... un premier match de l'équipe de France de foot qui a eu lieu seulement en 1921 contre l'Angleterre. Donc, alors que c'est vraiment l'équipe de France, finalement, du Tour de France qui va un petit peu sceller ce concept équipe de France sportive.
Ouais, donc beaucoup de changements, hein, dans les règlements sportifs, mais pas que. Hein. Les Français qui gagnent, ça ramenait un public plus nombreux.
Voilà, ça va ramener le public, ça va surtout ramener une audience aussi avant le public, parce que bon, il faut imaginer qu'avant 36, les premiers congés payés, le public se déplaçait assez peu sur le Tour, puisqu'il n'y avait pas de vacances en fait. Hein. Ouais, et ce n'était pas si évident que ça. Il y avait également des automobiles qui étaient rares, chères, et qui n'avaient pas non plus une autonomie extraordinaire, puisque déjà, pour. Je rappelle dans le Tour un peu précédemment que dans les voitures suiveuses au départ du Tour, sur 25 ou 30 qui étaient au départ, il n'y en avait jamais que 4 ou 5 qui réussissaient à faire le Tour de France sans tomber totalement en panne.
Oui, oui, c'est ça.
Donc c'était presque plus facile de faire le Tour à vélo qu'en voiture. Mais bon, c'est vrai que ça va se développer tout ça, alors, notamment avec les congés payés en 36 qui vont vraiment amorcer la présence du public sur le Tour. On voit d'ailleurs des services de... Il y a également des services de train et de bus qui vont acheminer le public sur le parcours du Tour de France, des choses très nouvelles et qui vont également apporter quelques points négatifs, puisqu'il va y avoir notamment l'arrivée de la poussette dans l'école qui va un petit peu perturber le déroulement des étapes de montagne du Tour de France.
C'est une forme de passion, ça, on va dire.
Voilà.
Et puis donc, 5 années de suite, les coureurs français s'imposent. Hein, le Tour devient de plus en plus populaire. Donc, et puis, il y a l'arrivée de la caravane publicitaire. J'ai lu aussi que les actualités Gaumont diffusaient des images dans le courant des années 30. Et puis, le génial dessinateur de presse Pélos également.
Voilà, Pélos, René Pellarin dit Pélos, qui va commencer à travailler... dans la presse magazine du Tour de France, notamment Match Lintran, qui était l'ancêtre de Paris Match. Et un point qui n'a pas été cité également, c'est la radio, très important. L'arrivée des retransmissions du Tour de France à la radio qui vont également véritablement booster, doper la popularité du Tour.
J'ai noté aussi, j'ai cru comprendre que Henri Desgranges, le créateur du Tour, était tout puissant. C'était le grand patron. J'ose dire qu'il n'en faisait qu'à sa tête. Par exemple, il a refusé le départ du Tour 1930 au vainqueur de l'année précédente, un Belge qu'il considérait pas assez charismatique.
Voilà, De Waal, en effet, qui n'a pas été... En fait, ce qui est assez curieux, c'est que les équipes nationales étaient sélectionnées par Henri Desgranges lui-même, enfin par le journal Lotto qui organisait le Tour. C'était pas une direction technique nationale, comme ça se fait actuellement, qui sélectionnait les équipes, mais c'était véritablement Henri Desgranges qui retenait qui il voulait, en fait, dans cette équipe de France.
Puis du côté sportif, donc on se rend compte que les coureurs français sont très liés. Moi, je retiens par exemple en 1933, Archambault et Speicher s'entendaient très bien. Ils partageaient la même chambre, écriture, et il n'y avait pas de rivalité entre eux, alors que chacun pouvait espérer gagner cette édition.
Oui, alors pas de rivalité. Bon, c'est vrai que alors on parle de Maurice Archambault, qui est un coureur qui est resté quand même un peu dans l'histoire du Tour, même s'il ne l'a pas gagné. Mais c'était un coureur qui était assez fragile, donc c'est vrai que finalement, il n'a jamais été véritablement en mesure de gagner le Tour. Il avait toujours un ou deux jours difficiles. Alors son problème à Maurice Archambault, c'était qu'il ne supportait pas la chaleur. Et quand ça démarrait un petit peu dans le nord, sous les averses, là, ça se passait souvent bien. Puis quand on arrivait un peu dans le sud, que les chaleurs commençaient à arriver, donc... Il avait toujours sa défaillance.
Oui, puis donc, les étapes duraient entre 270 et 300 km en plus. Ça facilite
choses. Oui, les étapes étaient souvent longues, compliquées. Alors, il y a eu souvent l'introduction également dans les années 30 des demi, voire des tiers d'étapes, donc, qui rendaient la course très compliquée. Parce qu'il faut imaginer que ce n'était pas du tout comme à l'heure actuelle. Il faut imaginer qu'une étape, par exemple, de 300 km était divisée en deux, voire trois tronçons. À la demi-étape, quand tout le monde était arrivé, voilà, le temps de se passer un petit peu d'eau sur le visage, éventuellement de se ravitailler et ordonner le départ de la demi-étape suivante. Voilà, ça se passait un petit peu dans la foulée. Il n'y avait rien de prévu à l'arrivée pour les coureurs, pour se reposer. On voit dans des photos assez étonnantes de coureurs qui sont dans un pré en train de faire une petite sieste en attendant le départ de l'étape suivante. Ouais. Voilà, je raconte aussi, je crois, à un moment que c'est Silver Maes, en 36 ou en 39, qui se repose entre deux demi-étapes comme ça sur un banc et qui récupère ainsi comme ça quoi, sans véritablement avoir le temps de se poser quoi.
Nos contemporains craindraient je pense. Ouais. Puis donc les Français ont gagné 5 fois, c'est quand même énorme. Et puis toutes les bonnes séries ont une fin, même plus belle la vie. Aussi en 1935, les Français ont la poisse. Et un petit Belge inconnu leur fait la nique, prenant le maillot jaune dès le premier jour, pour ne plus le quitter.
Voilà, Romain Maes, en effet. Romain Maes qui l'emporte en 35, en gardant le maillot jaune de bout en bout. C'est un exploit qui avait déjà été réalisé avant lui par Ottavio Bottecchia, notamment. Mais qu'il a donc réédité. C'est une petite surprise, en effet. Romain Maes qui n'a aucun lien de parenté, d'ailleurs, avec Silver Maes, qui a gagné également deux fois en 36 et en 39.
Et puis ça va mieux pour la France. Nouvelle victoire en 37 avec Roger Lapébie. Il y a eu des histoires dans ce tour.
Alors le tour 37, en effet, c'est un tour très, très particulier puisque c'est vrai que la victoire de Roger Lapébie a été due en partie au retrait de l'équipe belge qui a été prise à partie pour différentes raisons. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu aussi un changement. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées parce que les Belges qui étaient très forts dans les contre-la-montre par équipe, et il y en avait pas mal qui étaient prévus pendant le tour, accumulaient de l'avance et Henri Desgranges, dans le milieu du tour, se dit, est allé voir le commissaire fédéral qui était chargé de faire respecter le règlement du Tour de France et il se dit, mais est-ce qu'il y aurait une possibilité de changer le règlement du tour en cours de l'épreuve? Et rien à l'époque dans les règlements du cyclisme international ne l'empêchait. Et donc Henri Desgranges, du haut de sa grandeur, a décidé de supprimer tout simplement, à partir de maintenant, les contre-la-montre par équipe pour le restant du tour. Ce qui fait que les Belges se sont trouvés naturellement un petit peu lésés. Ils se sont dit, mais voilà, naturellement, il a fait ça pour nous empêcher de gagner. Quoi.
Chauvinisme. Hein.
Voilà, par chauvinisme. Et puis, alors, partant de là, après, il y a eu des... Ils ont été pré-partis aussi par certaines personnes, par le public notamment, qui les auraient agressés, qui leur auraient lancé du poivre dans les yeux. Notamment à certains moments, et ils ont décidé de se retirer en fait, purement et simplement.
Ouais, puis la décennie s'écoule, on entend des bruits de bottes en Europe. Le Tour 1939 se déroule toutefois sans encombre et se conclut avec une nouvelle victoire belge, et la dernière avant bien longtemps.
Voilà, c'est la dernière en fait. C'est Silver Maes qui remporte le Tour de France en 1939 pour la deuxième fois. Pour la petite histoire, d'ailleurs, il faudra attendre 30 années jusqu'en 1969 pour revoir une victoire belge en Tour de France avec un certain Eddy Merckx.
Voilà, on a encore quelques minutes. Il y a une chose aussi que je voudrais aborder puisque ton ouvrage est absolument passionnant. Il regorge d'anecdotes aussi. On a plein de choses. Je relève par exemple la lettre reçue par Maurice Archambault d'une jeune Bretonne qui laisse penser à une demande en mariage. Ou bien Romain Maes qui, un an après y avoir été soigné, retourne dans un hôpital dans l'espoir de revoir son infirmière qui s'était bien occupée de lui.
Voilà, une infirmière qui... Là, ce n'était pas spécialement par amour, mais c'était cette infirmière, en effet, qui l'avait beaucoup soigné. Il avait été victime d'une fracture du crâne, Romain Maes. Du moins d'un traumatisme crânien assez sérieux. Et il avait été en effet hospitalisé. Et lorsqu'il était revenu, son infirmière, malheureusement, était partie à la retraite.
Puis aussi ce journaliste qui s'arrête dans un bistrot, il commande un café, un Armagnac, il oublie de payer. Un peu plus loin, il raconte son histoire à un confrère amusé. Il lui dit « Fais-en un écho, que le bistrot me dise où envoyer l'argent ». Et il ne se doutait pas qu'il le ferait. Et qu'il ajouterait que son collègue fait le même coup 3 fois par jour. Il y avait de l'humour, il y avait plein de choses.
Voilà, ce journaliste-là, en fait, c'est Jean Leliot. Hein, Jean Leliot qui était le père de Jean-Michel Leliot, que certains de vous, auditeurs, avaient peut-être connu, puisqu'il était journaliste sur la première chaîne de télévision dans les années 70.
Ah voilà, comme le temps passe, Jean-François, on va devoir déjà se séparer. Ah si, une dernière question quand même. Une suite est-elle prévue? La fin des années 40, les années 50
Alors une suite, a priori, non. Par contre, je travaille sur un autre ouvrage. Allez, je peux l'annoncer peut-être en avant-première, on va dire. Je travaille sur un autre ouvrage, sur une époque beaucoup plus récente qui mettra en scène Romain Bardet et Thibaut Pinot.
Ah voilà, ça va intéresser les jeunes générations également. Merci Jean-François Suppier d'avoir enrichi nos connaissances. Quant à vous, amis auditeurs, auditrices, le choix de votre cadeau de Noël est sans doute fait. Rien ne vaut un bon livre.
Radio B.
L'actualité, c'est aussi le moment de souhaiter un bon anniversaire à Joseph Revol, qui ce lundi 5 décembre fêtera ses 100 ans. Véritable monument du sport cycliste dans l'Ain, et bien au-delà, Joseph Revol présente une carte de visite impressionnante. Il signe sa première licence en 1946 au club cycliste châtillonnais, créé un an plus tôt. Après 5 saisons, qu'il a vu remporter plusieurs victoires, il renonce à la compétition pour se consacrer à son commerce et à sa famille, mais garde intacte sa passion pour son sport qu'il sert grandement. Dirigeant, commissaire national, créateur de l'école de cyclisme de son club, organisateur de courses, fondateur de l'association cycliste neuvilloise, il a également présidé les destinées du club cycliste châtillonnais. Figure incontournable du cyclisme adinois, personnage affable que nous avons toujours plaisir à rencontrer, nous vous saluons chaleureusement, monsieur Revol, cher Joseph.
Radio B, Radio B.
Agenda, les prochaines épreuves. Ce samedi 3 décembre, cyclocross à Saint-Vulbas, souvenir Thierry Charbonnier. À partir de 10h30 pour les enfants des écoles de cyclisme, puis tout au long de la journée. La course phare, élite et espoir, s'élancera à 14h30 avec la participation de 2 coureurs professionnels de l'Ain. Pierre-Luc Perrichon, le capitaine de route de Cofidis, et Maxime Jarnet, prometteur espoir de Gosport Roubaix Lille Métropole. Et puis, le week-end suivant, se disputeront les championnats Auvergne-Rhône-Alpes de cyclocross, organisé à Belmont-de-la-Loire, du côté de Courlaville. Samedi 10, relais par équipe, composé de 4 coureurs, 2 femmes, 2 hommes, départ à 15h30. Dimanche 11, championnat à toutes catégories, premier départ à 9h45 pour les cadets, Les élites concluront le programme en s'élançant à 15h15. Ainsi s'achève votre rendez-vous mensuel. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve l'an prochain. Belle et agréable journée à l'écoute de Radio B. Les bonnes ondes.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien.